Alors, trois questions rapidement. Enfin, je dis toujours ça au début, puis ça part pour un tunnel de 15 minutes. Juste une question de mots. Transition écologique, je pense que ce mot est piégé, en fait. C'est comme développement durable. Ils essayent avec ce mot de nous. Donc je ne sais pas si je l'emploie. Est-ce
C'est
qu'ils.
pour passer à l'économie post-carbone.
Oui, j'oublie pas la deuxième partie de votre question. Mais juste cette remarque, ce mot est problématique. En fait, chaque fois que les dominants prennent un mot et que ça ne les dérange pas, c'est qu'il y a un lézard. Bah, le lézard, il est pour rien. D'ailleurs, j'aime bien les lézards, mais il y a un truc, quoi. Or, à partir du moment, avant, il y avait ministère de l'environnement. Bon, ça correspondait à une vision d'une époque. Après, il y a eu le ministère de l'écologie, ça. C'était plus franc. Et puis, sous Macron, ils sont avec Hulot, malheureux Hulot, ils sont passés au ministère de la transition écologique et solidaire. Et transition écologique, s'ils acceptent le mot, c'est qu'il y a un problème. Donc, moi, j'essaye de ne pas, enfin, de pas employer le mot transition écologique. Je pense que. Je ne sais pas quel mot employer. Mais là, j'aime pas le mot de rupture aussi, qui est un mot très macronien, qui est un mot violent. Mais voilà, j'emploie pas de mots. Je préfère parler de la fin du capitalisme, la mort du capitalisme, il faut en finir, plutôt être dans la logique de détruire le système, ou alors changer le système, là ça me va, changer le système, pas le climat, là ça va. Donc le jour où il y aura un ministère du changement de système, il faudra peut-être se poser des questions, ou alors c'est vraiment une gauche écolo merveilleuse, le marxisme et sans Staline sera arrivé au pouvoir et. Ça sera bien. Bon, voilà, juste un truc, parce que c'est une bataille. C'est une bataille,
C'est mon
mais... Bon. Après, je sais pas. Mais le cœur de votre question, c'est, si j'ai bien compris, c'est la gestion des communs. Eh ben, les communs, c'est quoi? C'est la mise en question de la propriété. Eh ben, je pense qu'il faut mettre vraiment la question de la propriété. En gros, le point où j'en suis arrivé, je vais répondre par rapport à la troisième question, c'est on a toutes les réponses, on a toutes les analyses. Oui, il faut aller vers les communs, tout ça est réaliste, oui, il faut reprendre le pouvoir sur la finance, oui, il faut faire le. Mais concrètement, il faut être plus radical. Donc, on revient, on pose la question de la propriété. On ne se dit pas, ça serait mieux si on faisait les communs, monsieur le capitaliste. Essayez de comprendre que la gestion des communs, c'est mieux que la gestion privée ou la gestion par l'État qui décide de tout, etc. On est dans une bataille là
C'est du
aussi.
sus, ça.
Et je ne sais pas, mais il faut poser la question de la propriété. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de dire, il y a une solution, il faut dire, il y a un problème. Et c'est vous le problème. Et donc, il faut remettre en cause le droit de propriété. Voilà. L'héritage, par exemple, ça a été une bataille qui est. On parle de l'inégalité des revenus tout à l'heure. Il y a un autre truc, et Sapir Katz met très bien le doigt dessus dans son premier bouquin, Le Capital au XXIe siècle, je crois. Enfin, le premier, je ne me rappelle plus le titre. Bon, peu importe. Celui qui a sorti il y a 2 ans. C'est Le Capital au XXIe siècle. Hein? Il dit l'évolution des patrimoines aussi, et qui est d'ailleurs beaucoup moins connue. Que l'évolution des revenus. L'évolution des revenus, on y arrive à peu près, c'est pas tout à fait simple, mais les données fiscales, ceci, ceci, cela. Le patrimoine, c'est beaucoup plus. Voilà. C'est beaucoup plus obscur. Et donc, c'est ça. Moi, je me dis même pas comment est-ce qu'on va gérer. Je dis l'enjeu essentiel, c'est de dire on reprend l'argent qui est volé. Voilà. Vous voyez, c'est une démarche rhétorique différente. La deuxième question sur la crise financière. Alors ça, c'est très, en fait, c'est très délicat parce qu'il y a une responsabilité grande. Je dis quand on, par exemple, moi, j'ai le privilège de, là déjà, vous avez me faites l'honneur et la gentillesse de m'écouter. Donc déjà, c'est un privilège de pouvoir dire des paroles qui vont être entendues et qui peut-être vont changer quelque chose dans les esprits. Donc c'est une parole publique. C'est aussi dans le livre, c'est une parole voilà, qui est lue, donc c'est important. Alors je vais vous répondre en 2 temps. D'une part, que dans le bouquin, il y a un passage où je disais il faudrait qu'il y ait une crise, parce que si la Chine continue à croître de 10% par an, comme c'était encore le cas en 2007, si les États-Unis continuent à croître de 3%, c'est dramatique. Donc il faut que ça s'arrête. Donc, je ne sais plus les termes que j'employais, mais S'il y avait une crise ou quelque chose, ça serait bien. Maintenant, j'en suis finalement toujours au même point, mais avec là une inquiétude plus forte, parce que si elle arrive, elle sera beaucoup plus grave que ça n'était le cas en 2007. Le bouquin est paru en janvier, et les premiers signes de la crise BNB en Islande, c'était à l'été 2007, et puis ça a vraiment éclaté en 2008 avec Lehman Brothers, etc. Et vous avez, dans votre question, déjà préparé la réponse. C'est que maintenant, ils ont grillé toutes les cartouches. Moi, j'essaie de lire les Échos de temps en temps, de lire les journaux capitalistes, donc les Échos de temps en temps, ils sont très inquiets. Il y a en gros un économiste sur deux qui dit « ça va péter », et l'autre qui dit « bah non, ça va peut-être tenir encore quelques années ». C'est vraiment le débat qu'il y a là, quoi. Et maintenant, on n'a plus de cartouches. On n'a plus de cartouches. Les États, parce que si on a fait passer la dette en gros de 50% à 100%. S'il y a à nouveau une crise financière et qu'il faut sauver la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, pour la France, hein, parce que l'État ne peut plus. On ne peut plus passer la dette de 100% du... Puis ça serait une dette à l'égard de qui? Parce que tout le monde croulerait. La Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait, la Chine, pour maintenir? Eux, ils n'ont pas remboursé les dettes parce que le système financier ne fonctionnait pas différemment. Ils ont lancé un programme d'infrastructure délirant. Donc, en 10 ans, ils ont fait du keynésianisme. Des TGV encore plus qu'avant, des villes nouvelles, des je sais pas quoi. Ils y ont été à fond. Ça a été pas mal. C'est-à-dire que leur croissance est descendue à 6%, mais ils l'ont maintenue à 6%. Pour l'instant, ils la maintiennent à 6% comme un drogué avec sa dose quotidienne, quoi. Donc... Pourquoi est-ce que je suis inquiet et je me sens une responsabilité en disant ça? C'est que logiquement, il vaut mieux qu'il y ait la crise financière maintenant. Parce que le pire, ça serait qu'on continue à avoir le système qui continue. C'est-à-dire Macron qui continue à parader, la croissance, même une croissance de 1,5% en France dans un pays européen. C'est extrêmement important. Il faut se rappeler deux choses. Un, ça a été toute la croissance pendant le 19e siècle, elle était à peu près de 1% par an. Ça nous paraît peu. En fait, c'est très important, ça suffit. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, on fait une règle de 3, mais 1 ou 1,5 par an, vous doublez la richesse collective mesurée par le PIB, donc une richesse matérielle, vous le doublez en 40 ou 50 ans. C'est énorme. Déjà, ça, c'est la première chose à avoir en tête. Alors, vous imaginez les 6% qui continuent encore à être en Chine, les 3% qui sont aux États-Unis de manière totalement artificielle. Je pourrais le détailler, mais notamment par le gaz de schiste et un prix de l'énergie qui est maintenu extrêmement bas, à un prix écologique délirant. Si la croissance continue, si le système continue, on va vers, vous citiez 2030-2040, on fait péter tous les trucs d'émissions de gaz à effet de serre, biodiversité, etc. Donc malheureusement, puisque le système est incapable de lui-même, rationnellement, de se transformer, on en vient à l'idée que la crise financière, en cassant cette mécanique productive mortifère, et du point de vue écologique, je le pose comme hypothèse, mais je le dis quand même comme une hypothèse sur laquelle il faut réfléchir, une solution préférable. Mais le problème, c'est que, vu le comportement du capitaliste et tout ce que j'ai raconté, ils n'ont plus les cartouches. On ne peut plus. Comment il s'est maintenu économiquement le capitalisme après 2008, techniquement, hein, il s'est maintenu par le bas prix de l'énergie. Donc, il y a vraiment une révolution aux États-Unis avec le gaz de schiste et le pétrole de schiste. C'est-à-dire que les États-Unis sont redevenus quasiment autonomes en matière énergétique. Ils sont redevenus producteurs, premier ou deuxième ou troisième avec la Russie et l'Arabie saoudite, je ne sais plus, de pétrole et de gaz de schiste. Et donc, ils ont réussi à maintenir un prix de l'énergie bas. Donc le pétrole, il est à 35, il est un peu remonté, là on doit être à 40 ou 50 dollars. C'est alors que rappelez-vous qu'en 2007, et ça, il y a un certain nombre de gens d'ailleurs qui disent qu'en fait la crise de 2008-2009 est une crise du pétrole et une crise des ressources, il avait commencé à monter très fort. Il était monté à 100 ou 130 dollars vers 2005-2006. Là, le capitalisme, il a répondu par un prix de l'énergie bas, en poussant à fond gaz de schiste et pétrole de schiste aux États-Unis. Et diverses autres choses, et par, ils ont appelé la quantitative easing, qui a été lancée d'abord par la Federal Reserve Board et en Europe par la Banque Centrale Européenne, c'est on donne de l'argent aux banques, on lâche de l'argent aux banques. Maintenant, ces leviers ne peuvent plus fonctionner, on ne peut plus faire baisser le prix de l'énergie beaucoup plus bas, on ne peut plus, là, ils sont encore, ils ont tellement peur que la croissance retombe, que la BCE, qui avait décidé d'arrêter, vient de remettre en place le quantitative easing. Et donc, s'il y a une crise financière qui arrive, il y a une chance sur deux, parce que plus personne ne sait comment fonctionne le système, il y a une chance sur deux pour qu'elle arrive, il n'y aura plus de... L'État garant ne pourra plus être garant, comme vous l'avez posé très justement dans votre question. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut le souhaiter? Est-ce qu'il faut souhaiter que la crise financière arrive? Le problème, c'est que si elle arrive...
La convergence avec la crise migratoire et la crise écologique et la crise financière, si les trois arrivent en même temps, ça ne pourra pas, comme ils aiment le dire, s'autoréguler.
Alors, crise migratoire, c'est... je ne sais pas s'il y a une crise migratoire. C'est en tout cas un... Pas bon, appelons ça crise migratoire.
Vous trouvez dans votre livre que d'ici 2040, je pense, ou 2050, que la planète ne serait fertile que pour produire la nourriture pour 1 milliard de personnes, je crois.
Ah non, je pense pas que je dis ça dans le livre, non, certainement pas. Non, non, parce que je ne le pense pas et j'ai pas les éléments pour le dire. En revanche, et ça nous entraînera dans une autre discussion, on peut vivre avec une bonne alimentation pour 8 milliards d'habitants, mais pas avec le régime carné des Occidentaux à l'heure actuelle et l'augmentation du régime carné qui est en train de se produire en Chine en Inde. Bon, donc voilà la deuxième question que vous avez posée, enfin la réponse qui est, vous voyez, elle est très lourde, quoi. Et troisième... Pardon.
Le fait de ne pas avoir cartouche, c'est pas aussi un moyen de dégommer les derniers bastions de solidarité, les structures de solidarité, qui en disant, regardez, on n'a plus de cartouche, le système ne fonctionne évidemment pas comme ça, il faut qu'on dégomme la sécu, la santé, l'éducation, pour pouvoir continuer à avancer.
Moi, j'oublie pas la troisième question qu'a posée monsieur sur le travail. Non, mais je veux bien répondre à ça, parce que si vous voulez bien, parce que c'est la poursuite d'une discussion. Donc, ce qu'a dit monsieur au premier rang, parce qu'on ne vous entend pas forcément, je retraduis ce que... Enfin, j'essaie de redire ce que vous avez dit, vous me direz si j'ai bien compris. Est-ce que le fait que la crise financière se produise et que l'État n'ait plus de cartouches, ça ne va pas lui permettre de dire « Ah ben, il n'y a plus de cartouches non plus pour la sécurité sociale, donc j'en profite pour balancer la sécurité sociale. » Pour dégommer ce qui reste de solidarité collective, la retraite, la sécurité sociale, les allocations familiales, etc. Ma réponse, ça serait de dire, de toute façon, si la crise financière arrive, on rentrera dans une conflictualité où là, soit les gens font comme en 1929 aux États-Unis, enfin, je connais mal cette histoire, donc c'est peut-être dangereux de dire ça, parce que, mais soit les gens acceptent, soit on rentre dans le rapport de classe généralisé, parce que là, je suis d'accord avec mon camarade. On pourrait dire quand même, qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans? Du côté de l'oligarchie, ça n'a pas changé. Quand même, du côté du mouvement social, il y a quand même deux choses qui ont changé. Il y a quand même que l'articulation sociale-écologique s'est faite très largement. Pas encore chez tous les écolos, pas encore chez tout la gauche, mais grosso modo, ça s'est fait très largement. Là, vous avez vu Extinction Rébellion, l'évolution. Au début, c'était un mouvement un peu bobo il y a 3 jours. Et puis là, quand même, ils sont en train de se dire « Attendez, nous, on est quand même justice sociale. Justice... » Il y a une cabane de gilets jaunes qui s'est instaurée. Et Extinction Rébellion dit « Attendez, nous, on n'est pas les colibris, quoi. » Vous voyez. Mais, bah oui. Donc, un premier point important, l'imbrication intellectuelle, sociale, écologique, elle s'est faite. Avec ces arguments-là, avec d'autres, peu importe. Deuxième chose, c'est qu'il y a eu une montée de la conflictualité. Il y a une séquence très importante, alors j'en parle dans un autre bouquin, « Tout est prêt pour que tout empire ». Et par exemple, la révolte des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, il ne faut pas le voir comme un mouvement... enfin, moi, c'est ma thèse. Hein. Il faut, selon moi, pas le voir comme un mouvement en soi. Il s'inscrit dans un mouvement généralisé. De révoltes qui sont nées précisément de la crise de 2008-2009, etc. Avec les indignés qui démarrent, et Occupy Wall Street qui démarre en Espagne et aux États-Unis, la crise au Brésil à peu près à la même année, le printemps arabe qui démarre aussi, on peut dire, il est pas... Il est relié à ça. Ce qui se passe au Japon, Fukushima se produit à ce moment-là, il y a un mouvement social extrêmement important qui remet non seulement en cause la gestion de la crise nucléaire, mais l'oligarchie même, qui fonde le système politique japonais. Je dois oublier un certain nombre de révoltes qui se produisent sur 2-3 ans, la Turquie avec la place Taksim, enfin, le mouvement au Québec, un mouvement au Québec extrêmement important des étudiants, un mouvement au Chili en 2011 extrêmement important, où toute la classe, toute la société est derrière les étudiants contre l'élévation des droits d'inscription. Donc vous avez un grand nombre de révoltes qui se produisent dans plein de coins du monde. Et c'est là, je reviens à l'idée de réarmement idéologique du capitalisme, l'idée m'en est un peu venue de là, en m'appuyant sur ce que disait Immanuel Wallerstein, qui est mort il y a quelques années, Immanuel Wallerstein, bon, moi je l'ai découvert depuis très peu de temps, mais c'est quelques années, c'est un historien qui était dans la foulée de Fernand Braudel, l'historien qui a introduit l'idée de penser l'histoire globalement, système monde et dans la longue durée. Wallerstein est dans la foulée de Braudel, mais beaucoup plus politique, beaucoup plus dans l'époque présente. Et Wallerstein, il y a, à mon avis, qui est fort, qui dit « Regardez ce qui s'est passé en 1848 ». En 1848, en Europe, il y a eu des révoltes partout. À Prague, je ne sais plus où, en Allemagne, en France, en Italie. Partout, ça pousse comme des champignons sans être coordonné. En France, ça a été une grande révolution. Et partout, la bourgeoisie reprend le pouvoir, selon des manières. Il y a eu une grande réaction qui se produit. Ce que dit Wallerstein, il dit qu'il s'est passé autour de 2011, 2012, 2013, la même chose que ce qui s'est passé en 1848. La grande réaction du pouvoir en place, des dominants, de l'oligarchie, je ne sais pas quel terme lui il emploie, voilà, et c'est ce qui s'est passé. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ça bouillonne quand même, ça bouillonne, et qu'en France, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans d'autres pays, mais en France, après, on a quand même Nuit Debout. C'est pas banal, Nuit Debout, et ça vient après les attentats. Faut voir ce qu'est Nuit Debout quand même. C'est après la chape de plomb qui nous tombe à tous et toutes dessus en 2015, Charlie Hebdo et puis les attentats de novembre. Vous vous rappelez l'ambiance à l'hiver 2015, enfin à Lille, je ne sais pas, mais à Paris, je veux dire, waouh. Et arrive la COP21, arrive déjà la manifestation, non, on manifestera pour le climat, même s'il y a eu des attentats il y a un mois, et c'est déjà une première bataille importante. Et puis après, il y a Nuit Debout, qui est quand même un moment fort, et qui déjà remettait, ok, on peut parler d'autre chose que d'islamisme et du terrorisme, on peut parler de démocratie. Alors peut-être qu'on le fait mal, peut-être qu'on déconne, c'est sûr, etc. Mais waouh, quelle respiration, on peut... Bon, après Nuit Debout, qu'est-ce qu'il y a? La révolte, enfin la révolte, la bataille pour les retraites. Après, il y a la séquence Macron, on démarre sur les retraites. La SNCF, on s'en prend plein la gueule. Paf, les gilets jaunes démarrent, qui est quand même un truc incroyable. Le mouvement climat au même moment. Hein, la séquence gilets jaunes, mouvement climat, ça démarre au même moment. Et ils finissent par se comprendre, en gros. Qu'est-ce qu'essayent de faire les griots de l'oligarchie, là, les BFM et compagnie? Ah oui, les gilets jaunes, un, ils sont racistes et ils veulent pas des migrants, et deux, ils sont contre. Une stratégie utile en ce moment, c'est de dire on attaque la propriété, on veut un revenu maximal admissible, on veut réduire les inégalités. Parce que la bourgeoisie, ça fait plaisir de dire la bourgeoisie, après on est l'espace marque, allons-y, la classe dominante, elle n'en a rien à faire du temps de travail. C'est comme le revenu universel. Elle raisonne simplement par rapport à la révolution technologique dont je vous ai parlé. Si les robots viennent assez vite avec l'intelligence artificielle, je vais employer délibérément des mots marxistes, on changera les rapports d'exploitation. Et on donnera aux gens, on dira aux travailleurs, vous allez travailler moins, vous aurez un revenu salarial plus faible, parce que vous allez accepter du coup le fait que les machines et l'intelligence artificielle prennent votre boulot. Ça sera ça le raisonnement. Moi je pense que dans l'urgence actuelle, mais je ne dis pas que j'ai raison, simplement je dis très amicalement que je suis en désaccord avec vous, ce qui en soi n'est pas un problème, hein. On n'est pas obligé d'être tous d'accord, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je raconte. Mais moi mon point de vue, c'est de dire, dans l'idéal c'est bien, mais ça on pourra le faire quand on sera passé par l'étape précédente. Et l'étape précédente, c'est comme on va dans les Alpes après avoir monté les Pyrénées, l'étape précédente, c'est d'imposer un changement radical sur la propriété, sur le revenu maximal admissible, sur les rapports d'inégalité. Alors, comment mettre au pas la finance dérégulée et comment attaquer la propriété? Je suis en gamberge, là. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de dire un « je sais pas », je vais vous dire le premier point. C'est déjà les Pinsons Charlot, ils parlent dans l'exposition que vous allez voir, il y a un segment d'évolution qui est la violence symbolique. En fait, si j'ai bien compris, ce qu'ils disent, c'est que le rapport de pouvoir qu'exercent les dominants passe notamment par l'usage des mots. Et la capacité à mettre dans l'espace public des mots. Donc, moi, c'est ma première réponse. Je suis plutôt journaliste, essayiste, intellectuel, donc j'ai tendance à considérer que les mots sont importants. C'est pour ça que je me bagarrais sur le mot développement durable. C'est pour ça que. Donc, déjà, mettre la question de la propriété dans le débat public, voilà, c'est bien. déjà attaquer symboliquement, c'est-à-dire rhétoriquement, c'est-à-dire verbalement, la propriété, en soi, c'est l'attaquer. Donc c'est ma première réponse. Pour donner un autre, rebondir sur autre chose, pendant des années, je n'ai pas employé le terme de décroissance. Dans des dizaines de conférences que j'ai faites, dans mes bouquins, baisse de la consommation matérielle et énergétique. Baisse de la consommation matérielle et énergétique. Alors, les gens, ils sont comme vous ce soir, ils écoutent, sont très gentils, ouais, c'est bien. Et bizarrement, ça ne suffit pas. Alors, il y a mille raisons pour lesquelles je disais baisse de la consommation matérielle et énergétique plutôt que décroissance, mais en fait, si on dit décroissance, ça fonctionne mieux. Donc maintenant, je me suis dit que j'emploierais le mot décroissance. Donc, décroissance. Ça l'est, il y a des mots, c'est un mot obus, comme le disait Paul Ariès, qui, avec Serge Latouche et quelques autres, ceux qui ont relancé le concept tactique de décroissance. Et en ce sens-là, voilà. Donc, employons ces mots. Par exemple, revenu maximal admissible, j'ai essayé pendant des années, et puis d'autres aussi, et ça passe pas, on n'arrive pas à trouver le mot qui le dise. Mais que, voilà, qu'on leur coupe la tête. Hein. Peut-être que là, ça marchera mieux, peut-être. Que dans le Figaro, il commence à valeur actuelle. Quels sont les mots qui... Donc, attaquer la propriété, déjà en disant qu'on peut attaquer la propriété. Après tout, il y avait peut-être un défaut dans cette fameuse déclaration de 1789, c'est, je crois, il y a un article qui dit la propriété est un droit sacré ou quelque chose. Bon, en fait, on dit, bah non, s'il y a ça dans la déclaration, il faut vérifier, hein, s'il y a ça dans la telle déclaration, eh ben on remet en cause la déclaration. Là, vous allez déjà faire du débat, quoi. Vous voyez, il faut que rhétoriquement, on arrive à pousser les termes du débat. Ça, c'est une partie de la réponse qui est... Pour moi, qui manie les mots, et pour beaucoup d'entre nous, le plus simple. Mais ce n'est pas anecdotique non plus. Cette bataille des mots est vraiment importante. Après, ça ne suffit quand même pas. D'abord parce qu'ils sont quand même plus nombreux que nous, avec etc. Mais, alors, comment attaquer la propriété? Comment mettre au pas la finance dérégulée? Rationnellement, c'est impossible. Ça ne peut arriver que parce que leur système va se casser la gueule tout seul. Soit parce qu'il y a un rapport de force, comme vous l'avez dit, madame, qui permet que ça fasse. Et donc, ça, je n'ai pas la recette magique pour ça. Je vais pousser le bouchon un peu loin à titre d'hypothèse. Mais après tout, et je pense plus généralement, je pense qu'il faut leur faire peur. Ce sont des méchants, donc je pense qu'il faut leur faire peur. Alors j'ai lu assez récemment un livre formidable qui est Le gang de la clé à molette de Edouard Abbey. Quelques-uns sont écolos. Vous qui connaissez La gueule ouverte, vous connaissez ce bouquin, non? Hein, c'est un super bouquin. En plus, c'est un roman, mais c'est à la fois un roman drôle, il y a de l'amour, il y a de l'aventure, en plus c'est politique. C'est le roman parfait et qui dit vraiment des choses. Et en résumé, c'est dans les années 70, des gens qui sont réunis un peu par hasard, qui ont la préoccupation écologique et qui vont saboter des barrages, des routes, des chantiers dans l'Ouest américain, qui est encore le Wild West. Bon. Et moi, je me pose la question, il se trouve que cet été, j'ai lu les mémoires de Jean-Marc Rouillant sur Action Directe. J'avais une vision d'Action Directe très caricaturale. Je lis le bouquin, il y avait de la pensée politique derrière. Je pense que c'est la question du sabotage est une question à poser, politiquement. Voilà, j'en dis pas plus, mais je pense qu'il faut réfléchir à ça. Voilà. Mais il faut que moi aussi, j'y réfléchisse davantage. Je pense que c'est trop dur de s'attaquer à un chantier, à un barrage, comme l'ont fait nos amis dans ce gang. Mais il y a des lieux symboliques qui peuvent... je gamberge. Et je pense qu'il faut que, collectivement, on ait ce genre de gamberge. Voilà. Ouais, je vous ai dit que c'était un peu en chantier, donc moi je suis encore en chantier là-dessus. Je vais d'abord essayer rapidement sur la démographie. J'ai relu Fournier parce que j'ai pas eu le temps de faire une recension, mais il y a une biographie de Pierre Fournier qui vient de paraître. Essayez de le lire, c'est vraiment aussi un livre important, les écrits de Fournier sont réédités. Donc j'ai relu, et dans cette biographie, il y avait aussi pas mal de textes de Fournier. Il ne parle pas beaucoup de la démographie. Il en parle, mais ce n'est vraiment pas son, m'a-t-il semblé, un de ses trucs fondamentaux. En deux mots, parce qu'autrement ça prend longtemps. Moi, je ne peux pas voir la question démographique sans la voir en termes de rapports sociaux, comme tout. Premier point, les États-Unis ont encore une démographie extrêmement importante par rapport aux autres pays occidentaux. Un bébé états-unien, il n'y est pour rien de malheureux. C'est un bébé qui vient au monde. Mais déjà, il va consommer, ou d'ailleurs français ou japonais, il va consommer dans ses trois premières années d'existence, il va avoir un impact écologique 40 fois supérieur à celui d'un bébé nigérien. Donc si on parle vraiment de la démographie, on la parle dans tous les pays et sans faire de différence entre les pays. La deuxième chose, c'est que en gros, pendant des années, on a pensé que la transition démographique était en train de se généraliser. Et il y a à peu près 4 ans, il y a eu vraiment un changement de paradigme chez les démographes, et notamment du bureau de la division de la population des Nations Unies, qui chaque année fait vraiment une sorte de travail consensuel sur l'évolution de la démographie, qui dit « Attendez, là, on est obligé de revoir toutes nos prévisions, parce qu'en fait, l'Afrique subsaharienne ne fait pas sa transition démographique, ou beaucoup plus lentement qu'on le pensait. » Partout ailleurs, en gros, c'est en nombre d'enfants par femme, ça diminue, etc. Là, en Afrique, on n'est plus tout à fait à 8 enfants par femme, mais on est à 6, 5. Là, et donc, d'où l'idée que la démographie, la population de nos frères et sœurs humains va continuer à croître plus rapidement qu'on ne le pensait jusqu'à 2050. Et ben après, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique aussi? Qu'est-ce qui s'est passé après la décolonisation et dans les années 80, avec quelque chose qui a maintenant oublié, parce que même dans la pensée alternative d'attaque, des intermondialisations, voilà, les choses passent, il y a eu le consensus de Washington, il y a eu la première entreprise de déréglementation qui s'est mise en place, parce que le néolibéralisme s'est mis en place, et non seulement aux États-Unis, non seulement en France, non seulement en Angleterre, etc., mais aussi dans toutes les politiques par rapport aux pays qu'on appelait du tiers-monde. Et donc, on a cassé... on a contribué à casser tous les dispositifs de santé qui étaient tant bien que mal en place. Et grosso modo, je résume beaucoup, et ce que disent les démographes beaucoup, c'est qu'un enjeu essentiel pour la transition démographique, c'est le nombre d'enfants par femme, et c'est beaucoup l'éducation, le planning familial et l'éducation des filles. Mais si vous cassez le système de santé et si vous cassez les écoles, eh bien, malheureusement, vous continuez à avoir... Donc voilà, c'est une grande partie de la réponse. Moi, je sais, parce qu'il se trouve, j'étais au Niger il y a pas mal d'années, mais j'avais vraiment fait un reportage assez approfondi sur ce sujet, et c'est, je l'ai vu vraiment sur le terrain comment ça fonctionnait. Donc moi, je suis d'accord pour parler de démographie, mais un, c'est pas la question clé de la question écologique, et deux, si on parle de la... Eh bien, on le relie à tout ce qu'on a dit auparavant sur la gestion collective. Et on peut se dire, après tout, puisque la France va récupérer 125 milliards d'euros chaque année en reprenant aux riches, en redéfinissant la propriété, en reprenant, on met au pas la finance dérégulée, on se dit, tiens, il y a 10 milliards, alors ça ne suffira pas, et ce n'est pas donner de l'argent qui va changer la donne. Hein, là. Mais on change aussi l'optique par rapport à tout ça. Et donc, je voudrais finir sur la question de madame, qui nous mènera peut-être à des conclusions plus optimistes. C'est j'opposais pas, en fait, hein, je disais pas que j'étais contre la réduction du temps de travail, etc. La question que je me pose, c'est tactiquement, moi je mets plus l'accent sur les inégalités par rapport à l'infinité des batailles, le nombre énorme de batailles qu'on a amenées. L'aéroport de Paris, vous avez raison, la fermeture des services publics, l'école, j'en oublie tellement il y en a sur le front, moi je rendais surtout sur le front écologique. Attendez, je ne vous vois pas. Voilà. Donc il y en a tellement. Donc on est d'accord, je crois qu'on est quasiment tous. Aussi, il y a une question de la convergence des luttes qui se fait beaucoup avec les mouvements des gens dans les banlieues autour du collectif Vérité pour Adama. Adama Traoré, vous savez, ce jeune homme qui a été tué il y a 3 ans maintenant, et donc Assa Traoré, elle le dirait 1000 fois mieux que moi, mais elle dit, il ne s'agit pas de faire des convergences, on y croit pas, mais faisons des alliances. Donc faisons des alliances entre toutes ces luttes, et puis tactiquement, voyons ce qu'il est possible de faire. Mais évidemment, la réflexion sur le travail, je suis d'accord, travaillons à des convergences, à des alliances. Après, vous avez raison, l'enjeu essentiel, c'est le rapport de force. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir le meilleur rapport de force? Si par hasard, mettons que ce soit le référendum sur l'aéroport de Paris. Disons que c'est ça. On sent très bien que si on arrive à tirer un truc, ça permettra d'en tirer d'autres. Donc, ça, imaginons. Et donc, ça nous permettrait, par exemple, de mettre un pied dans la porte et puis de faire passer, par exemple, l'inégalité, le temps de travail, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est un peu, j'essaie de réfléchir tactiquement parce que, et ça, c'est un point de vue d'urgence d'écologiste, on est vraiment, on est préoccupé par l'urgence, quoi. Et il y avait la phrase que vous avez rappelée, que effectivement moi j'ai dit, si dans 10 ans on n'a pas changé de cap, ce qui est effrayant, c'est qu'on est 10 ans après, on n'a pas changé de cap. Donc si je tire la conclusion de ce que je crois moi-même, bah, c'est qu'on est mal barré, et malheureusement on est mal barré. Donc qu'est-ce qu'on fait parce qu'on n'a pas trop le temps? Donc qu'est-ce qu'on fait tactiquement pour que ce que vous dites, alors que je crois que l'essentiel des points de vue, on les partage maintenant. C'est ça qui est merveilleux, je veux dire, là on est à Espace Mars. Je pense qu'il y a 10 ans, ça n'aurait pas été simple, et je le dis très amicalement, et d'ailleurs je viens de lire, il y a un petit bouquin de Zizek qui vient de paraître sur Marx, lisez-le, sur l'actualité de Marx et du manifeste du Parti communiste, c'est un petit bouquin de 60 pages ou 100 pages, ça mérite vraiment d'être lu. Et Zizek, il vient du marxisme, il ne vient pas du tout de l'écologie. Donc, vous voyez, ce travail en commun, il est en train de se faire, ce point de vue, on les partage, on est en train de faire cette alliance. On apprend à parler aussi avec les paysans, on apprend à... Les écolos, ils y arrivent. Enfin, travailler avec les banlieues, c'est pas simple. Mais on y arrive. Donc, alors, quel est le meilleur rapport de force? Moi, je dis, la bataille centrale, pour moi, je dis pas que j'ai raison, c'est l'inégalité. Mais si on peut y arriver par l'aéroport de Paris, par le boulot sur le travail, par d'autres choses, moi, je prends. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble et qu'on arrive à élargir, comme vous dites, ce rapport de force dans le bon sens. Et je pense qu'on peut le faire. Merci à toutes et à tous.
L'argent, ça fait pas le bonheur.
Enfin, ça aide hein, quand même.
Parfois, ça aide.
C'est du pognon dont vous êtes malade.
Du pognon?
Oui! Le pognon, le pognon, le pognon, le pognon!
Mais le pognon, il faut le prendre là où il est, gros nigo. Il y en a partout, ça ruisselle dans les caniveaux. Fais comme moi, t'as qu'à te baisser.
Comprendre les mécanismes de l'argent, les rouages de cette crise financière pour nous, c'est faire les bons calculs économiques, les BCE en abrégé. C'est le premier mercredi de chaque mois, à midi, avec Benoît Boussemard et nos spécialistes sur Radio Campus Lille, 106,6 MHz ou sur le web www.campuslille.com. À bientôt!